présence, le grand entretien.
Est un grand entretien avec Isabelle Duché et comme thème ce matin, comment la presse quotidienne est-elle impactée par les réseaux sociaux, Isabelle ?
C'est la question que s'est posée l'Observatoire des pratiques socio-numériques. L'OPSN a mené une analyse approfondie sur plus de 20 ans sur la manière dont les réseaux sociaux ont transformé le journalisme. La co-rédactrice de ce rapport nous présente ses conclusions ce matin. Bonjour Brigitte Seba.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à Toulouse 3, Paul Sabatier. Merci de votre intervention ce matin sur Radio Présence. On va commencer tout de suite par ce sujet pour entrer dans ce rapport. Il met en évidence une évolution assez frappante. Les réseaux sociaux ne sont plus simplement un objet à couvrir pour les journalistes, mais ils sont devenus, vous dites, une infrastructure invisible du journaliste lui-même. Comment s'est opérée cette normalisation dans la presse française?
Merci pour votre invitation. Alors, les réseaux, les journalistes, finalement, parlent des plateformes comme des objets un peu étranges qu'il faut expliquer au public. Et puis, ils vont décrire leurs usages un peu comme des notices techniques. Et puis, quelque chose va changer. En fait, ils vont eux-mêmes utiliser ces outils. Et progressivement, les réseaux sociaux cessent d'être un sujet parmi d'autres et vont devenir une sorte d'environnement ordinaire du travail journalistique. Donc, ils vont devenir en fait naturels au point qu'on ne les voit plus. Et aujourd'hui, les États tentent un peu de reprendre prise sur ces dispositifs, mais ils se sont imposés très très vite, avant même que leurs effets sociaux, médiatiques aient été pleinement compris, finalement.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans votre rapport, vous avez remarqué que le champ lexical avait évolué. L'expression réseau social est passée d'un contexte restreint à un mot valise. Avant, c'était au singulier, maintenant c'est au pluriel. Vous avez fait ce genre de remarque.
Tout à fait. Au début des années 2000, en fait, le terme réseau social, c'est une discipline, c'est même un courant de la sociologie qui renvoie donc aux sciences sociales, c'est les réseaux relationnels, les liens entre les gens, etc. Et puis à partir de 2007 et de 2008, l'expression elle se stabilise en fait et elle va désigner les plateformes numériques. Donc en fait, il s'impose rapidement cette expression, les réseaux sociaux, et donne l'impression en fait d'un espace très homogène, alors que les plateformes sont très très différentes. Et en fait, finalement, cette homogénéisation, elle va masquer des inégalités, puisque à chaque fois qu'on homogénéise, on écrase des complexités. Donc, effectivement, ceux qui disposent déjà de capital social, culturel, médiatique ou technique, eh bien, on les voit mieux, on les entend mieux sur ces espaces. Donc, c'est pas simplement des lieux de connexion, ces plateformes, c'est aussi des opérateurs un peu de hiérarchisation de la vie sociale.
Oui, évidemment. Est-ce que vous faites un lien entre le déclin de la presse imprimée et justement cette prééminence des réseaux sociaux dans l'information?
Oui, on le voit dans notre travail. Il y a une sorte de, on a regardé parce qu'on s'est dit, est-ce que ça correspond? Effectivement, il y a une montée en popularité des réseaux sociaux numériques et qui s'accompagne du déclin de la presse imprimée, complètement. Ils vont prendre un petit peu toute la place et au point de devenir en fait l'équivalent d'une sorte d'espace public, lieu où tout se passe, les événements se produisent, etc. Tous les gens étaient sur les réseaux sociaux pour parler politique ou pour comme si déjà tous les gens étaient sur les réseaux sociaux.
Oui. Ce qui n'est pas le cas. Donc ce rapport intitulé Aux origines du monde, les réseaux sociaux numériques dans la presse quotidienne française révèle aussi un grand tournant chronologique autour de l'année 2018. Vous parlez d'un passage de l'illusion de l'innovation à une phase de désenchantement critique. Qu'est-ce qui a provoqué, Brigitte Seba, ce basculement éditorial?
Alors, il est important de dire que ça tombe pas du ciel en 2018.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'au début des années 2010, au moment des révolutions du printemps arabe, les réseaux sociaux, ils sont largement valorisés. Ils apparaissent un peu comme des outils d'émancipation qui permettent de contourner des médias d'État dans des dictatures, etc. Et puis il y a un premier choc en France avec les attentats en 2015, puisque dans les articles, les plateformes commencent à être associées aux usages terroristes, aux enquêtes, à la circulation des contenus. Et puis ensuite, c'est le moment charnière, c'est Cambridge Analytica en 2018, Et là, les réseaux sociaux cessent d'être vus un peu comme des outils techniques et deviennent des objets politiques qui posent problème. C'est-à-dire qu'on passe d'un récit de l'innovation à un récit de la vigilance face à eux. On cesse de se demander finalement ce que les plateformes permettent pour commencer à se demander ce qu'elles produisent sur la société, en fait.
Oui, ce scandale Facebook Cambridge Analytica en 2018, est-ce que vous pouvez très brièvement le rappeler un petit peu son contexte pour nos auditeurs ?
Oui, c'est une aspiration des données. Alors, c'était via un jeu en ligne sur Facebook. Enfin, on répondait à un test de personnalité et sans savoir qu'en fait, la plateforme aspirait les données, enfin, les données des utilisateurs, et qui était revendu en fait pour permettre on va dire du mailing à haute échelle pour dans le cadre de l'élection américaine.
Oui, merci de ces précisions. Et c'est vrai que c'était très choquant de constater ça. Vous avez aussi constaté dans votre étude que Twitter, donc qui est maintenant appelé X hein, depuis 2023, occupe un espace médiatique démesuré. Vous parlez d'un effet Twitter. Pourquoi cette plateforme est-elle surreprésentée par la presse alors que finalement elle n'est pas la plus fréquentée par les Français notamment ?
Oui, c'est complètement hors norme. Parce que en 2022, par exemple, pour vous donner une idée, 1 million d'utilisateurs de Twitter, ça va générer environ 8 fois plus d'articles qu'un million d'utilisateurs de Facebook. Et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que Twitter, finalement, il est, c'est ce qu'on remarque, compatible avec les routines journalistiques. Les journalistes vont y faire de la veille, vont repérer des controverses, vont suivre des responsables politiques, des militants, d'autres journalistes. Donc c'est une plateforme de réaction, de citation, c'est un réservoir pour le journaliste en fait, pour son travail.
Ah oui, ça c'est du pain béni, je ne vous le cache pas.
Exactement. Et donc du coup, il est surreprésenté non pas parce qu'il reflète la société, mais parce qu'il reflète le journalisme au travail. Et ça ouvre en fait une question hein, de vulnérabilité informationnelle du journalisme, parce que lorsqu'une profession dépend fortement d'une plateforme pour, on va dire, repérer ce qui compte, ce qui se passe, etc., elle risque de prendre, enfin le journaliste risque de prendre aussi pour central ce que la plateforme rend visible. Mmh. Donc finalement, voilà. Mais de manière générale, dans le rapport, on s'aperçoit qu'on commence à parler d'une plateforme dans l'espace public au moment où les journalistes eux-mêmes commencent à l'utiliser.
Oui,
ça raconte quelque chose du fonctionnement médiatique. Quoi.
Oui. Et de fait aussi, dans votre étude, vous repérez que Twitter est surreprésenté dans certains médias et pas forcément tous.
Oui, évidemment, il y a des médias qui vont davantage le mobiliser, des journalistes qui vont davantage le mobiliser, mais de manière générale, tous. Enfin, tous les médias qu'on a investigués, hein, que ce soit La Croix, L'Humanité, Le Monde, mais il y en a qui vont davantage l'utiliser. Ce sont des journalistes qui, nous on a comparé ça, en fait, Twitter c'est moins un réseau social qu'une sorte de salle de rédaction distribuée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler avec, c'est une sorte de méta-rédaction, on va pouvoir parler avec d'autres confrères, d'autres rédactions, s'échanger des informations, etc. C'est un réservoir, en fait, inépuisable. Et finalement, ceux qui fabriquent l'information rendent populaire la plateforme. C'est vraiment ça.
Alors, il y a évidemment d'autres réseaux sociaux. Hein. On parle de Facebook, vous l'avez évoqué, Brigitte Seba. Il y a aussi TikTok, Snapchat. Comment les médias s'emparent aussi de ces spécialisations, de ces réseaux sociaux, pardon?
Oui. Alors, on a identifié 3 générations hein, de plateformes, en fait. Donc c'est Facebook, YouTube, etc., Twitter, c'est la première génération web. Après on a la génération smartphone avec Instagram, par exemple, ou Snapchat, et ensuite la génération vidéo qu'on a appelée algorithmisée avec TikTok. Effectivement, les journalistes vont leur attribuer des rôles. Après les avoir en fait homogénéisés, ils vont dire bon ben là, par exemple TikTok, c'est une plateforme qui est utilisée pour parler géopolitique. Voilà. Donc ça va être la plateforme de la géopolitique, des conflits internationaux, des guerres, etc. ou du terrorisme. Alors que bon, les usages en fait, en fin de compte des réseaux sociaux, c'est pas vraiment ça sur TikTok. Hein. C'est ce qu'on a remarqué aussi, c'est-à-dire que ils vont en fait attribuer des rôles. des rôles qu'ils ont eux-mêmes en tête, qui sont beaucoup liés au fait que l'algorithme leur distribue à eux aussi des choses individualisées. Hein. Donc, et ça, ça dit quelque chose d'une vulnérabilité aussi informationnelle pour eux. Quoi.
Donc géopolitique pour TikTok, quelle est la thématique principale par exemple pour Facebook ?
Et Facebook, ça va être davantage la vie politique, on va parler les mouvements sociaux, la vie politique, etc. Twitter, c'est vraiment l'espace de controverse. C'est toutes les controverses, etc.
Le débat.
Donc ça va être davantage ça, oui, ça va être davantage ça.
Mm-hmm. Snapchat ?
Snapchat, on a les Instagrammeurs qui sont sur Snapchat, etc. Donc on est davantage là-dessus sur Snapchat.
Et puis avec des problématiques, des sujets qui intéressent davantage la jeunesse, c'est quand même.
C'est les adolescents. Hein, voilà. Snapchat, c'est vraiment, on parle de Snapchat pour dire, les adolescents, qu'est-ce qu'ils font, etc. C'est une distribution des rôles. Alors qu'on oublie finalement que ils n'ont pas forcément ce rôle-là concrètement. Enfin, c'est ça. Attribue des caractères sociaux en fait.
Oui, c'est intéressant. C'est effectivement ce que vous avez mis en avant dans votre rapport. Pour terminer, un point sur les coulisses de l'espace numérique et ses dérives. Votre rapport évoque des thématiques qui restent parfois dans les points aveugles du regard médiatique. Et j'aimerais que on fasse un petit pas de côté puisque votre synthèse n'en fait pas directement mention. Comment vous analysez à la lueur de vos grilles de lecture la médiatisation d'affaires de cyberharcèlement de grande ampleur, comme par exemple la Ligue du LOL en France?
Alors, cette affaire-là, elle est très intéressante. Je vous remercie pour cette question. Par rapport à notre rapport, parce que elle montre vraiment d'abord le moment de bascule dans la manière dont la presse va regarder les réseaux sociaux numériques. Parce que l'affaire, il faut rappeler, elle éclate donc en février 2019. Et ça concerne donc des pratiques de cyberharcèlement. Et en fait, c'est pas juste un scandale sur Twitter, ça. Hein. C'est une transformation du statut médiatique des réseaux. Dans les années 2000, les médias parlent des plateformes comme des objets nouveaux. Et au moment de la Ligue du LOL, en fait, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que l'infrastructure, elle devient invisible. Personne ne s'étonne qu'un groupe Facebook, des interactions Twitter, etc., puissent produire des effets très concrets sur des carrières, des hiérarchies professionnelles, etc. Donc ça veut dire que les réseaux sociaux deviennent le milieu dans lequel les événements ont lieu. C'est plus le sujet. Donc en fait, après, effectivement, la Ligue du LOL, ça a rendu aussi visible des choses qu'on montre dans le rapport, c'est-à-dire que les réseaux ne sont pas des espaces séparés du monde social. En fait, elle rend visible cette affaire que les hiérarchies professionnelles existent déjà, les inégalités de genre, les mécanismes d'entre-soi, les rapports de pouvoir en fait qui existaient. Donc voilà, ça révèle aussi, on peut dire, une affaire où les journalistes deviennent simultanément en fait des acteurs, parfois des victimes, des observateurs et surtout, ce qui me semble important, des producteurs de normes de visibilité. Parce que finalement, ils mettent en avant certaines choses, ça met en avant certaines choses. Et ça, c'est pas représentatif des usages ordinaires de la population.
Quand vous parlez de normes de visibilité, c'est de quoi il s'agit exactement ?
Mais en fait, les plateformes, là, vous voyez, aujourd'hui, l'IA, elle va organiser un petit peu, elle va nous dire ce qu'il faut comprendre. Donc, elle va organiser l'intelligibilité de notre espace social, en nous indiquant ce qu'il faudrait comprendre. Les plateformes, elles ne faisaient pas ça, et elles ne font pas ça, mais elles organisent la visibilité, donc ce qu'il faut voir, sachant qu'on laisse de côté un tas de choses dont on se dit que ça n'existe pas, ou qu'on ne voit pas, sur les plateformes. Donc on oublie qu'elles ordonnent ce qu'on voit, donc la visibilité, comme aujourd'hui l'IA va ordonner l'intelligibilité des choses. Et c'est peut-être là que on retourne à la première question que vous m'avez posée, mais c'est ça finalement, c'est que ça naturalise quelque chose qui pose quand même question, qu'il faut interroger sur les effets sociaux de cette mise en visibilité de certaines choses.
Il est bon d'en prendre conscience et c'est grâce à vous que nous l'avons fait ce matin. Merci beaucoup Brigitte Seba.
Merci.
Je rappelle
que
vous êtes professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse et vous nous avez présenté ce rapport aux origines d'un monde, les réseaux sociaux numériques dans la presse quotidienne française. Merci beaucoup.